9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
Eh oui, nous sommes dans les rues de New York, ce dimanche de Pâques 1912. Un jeune homme de 24 ans, au visage plein de caractère, est en train de déambuler, seul. Il est désœuvré, et le voilà qui avance comme ça sur les trottoirs de Brooklyn. Il a les cheveux châtains, ce jeune homme, et des cheveux un petit peu longs, le nez fort, la bouche charnue. On l'imagine mal en point, la cigarette au bord des lèvres, il porte une vieille veste, ses chaussures sont usées. Ce jeune homme aux allures de vagabond se nomme Frédéric Louis Sauzère. Il est citoyen suisse. La nuit est en train de tomber sur la ville. Il est là, errant plus ou moins. Il a de la fièvre, il est mélancolique. Il a traversé l'Atlantique il y a quelques mois pour venir s'installer à New York. Il était poussé par des rêves d'écrivaillon, poussé aussi, disons-le, par l'amour d'une certaine Fela, rencontrée à Berne et venue tenter de son côté sa chance en Amérique. Depuis son arrivée, il a passé ses journée reclus ou perdu dans la foule, à la bibliothèque, à dévorer des livres, à noircir des pages. Mais ni ses tentatives littéraires, ni même ses recherches d'emploi alimentaire n'ont encore porté leurs fruits. Il s'arrête devant une église presbytérienne, notre Frédéric Louis. On est en train de jouer à l'intérieur la création d'Haydn. Il entre, il s'assied sur un banc parmi d'autres spectateurs et là, la musique prend littéralement possession de lui. Il est très ému, mais il est trop malade, il est trop là, trop déboussolé. Alors il va quitter l'église et sa maigre silhouette file dans la pénombre new-yorkaise. Cette ville si moderne, si éblouissante. New York, vous imaginez, il aurait pu l'aimer cette ville, mais il en a trop bien senti les travers, le culte de l'argent, la rudesse du quotidien. Il est bientôt 3h du matin, il regagne sa chambre dans le Bronx, chambre misérable, comme dirait le président Trump. Il avale un quignon de pain et, à bout de force, il s'assoupit. Il va raconter « Je me suis réveillé en sursaut. Je me suis mis à écrire. Je me suis rendormi, je me suis réveillé une deuxième fois en sursaut et j'ai écrit jusqu'au petit jour. Je me suis recouché pour de bon. Je me suis réveillé à 5h du soir. J'ai relu la chose. J'avais pondu les Pâques de New York. » Sans doute y a-t-il déjà dans ce récit une part d'imaginaire, mais qu'importe, voici ces fameux vers. « Seigneur, quand vous murûtes, le rideau se fendit, ce que l'on vit derrière, personne ne l'a dit. La rue est dans la nuit comme une déchirure, pleine d'or et de sang, de feu et d'épluchure. » Frédéric, pauvre et solitaire, signe Blaise Cendrard, un pseudonyme incandescent formé de braise et de cendre. Et dès lors, c'est comme une transfiguration. C'est comme s'il était un autre. Et comme le souligne Claude Leroy, professeur de littérature et qui connaît très bien le poète qui l'a introduit dans la Pléiade, c'est le phénix avec tout le mythe de la renaissance de soi. L'un des plus flamboyants poètes francophones vient de naître, Blaise Cendrard. Il n'a même pas encore 25 ans et il n'en est pas lorsqu'il est à New York à son premier voyage. Il faut vous dire qu'il était né le 1er septembre 1887 dans une ville du Jura suisse, la Chaux-de-Fonds. Son père est un homme assez instable, souvent empêtré dans toutes sortes de projets dont il faut bien dire qu'ils ne sont pas très réalistes. Quant à sa mère, c'est une femme mélancolique, peu expansive. Mis à part quand elle assied Freddy, le dernier de ses trois enfants, sur ses genoux pour lui apprendre à lire, parce qu'alors là c'est tout différent. « C'est tout ce que j'ai eu d'elle », résumera Blaise Cendrard. Au fil des ans, le gamin va se montrer de plus en plus intenable. C'est un adolescent difficile qui fugue, qui fait l'école buissonnière. Il ne rêve déjà que de départ. Il est appelé par le voyage. Il ne rêve que de liberté. Alors, quand il atteint l'âge de 17 ans, ses parents, qui ne savent plus trop quoi faire de lui, décident de l'envoyer faire un apprentissage à l'étranger. Il faut vous dire qu'un horloger suisse installé à Saint-Pétersbourg a accepté de le former. Et bien voilà, un jour de 1904, c'est le grand départ depuis la gare de Bâle. Myriam Sandrard, la fille de Blaise Sandrard, écrit dans une biographie « Seul dans son compartiment, Freddy est fou de bonheur. Dans un état de violente surexcitation, il a envie de crier. C'est son premier jour de liberté. Il se sent libéré de son enfance, de ses remords, de ses angoisses. Il a enlevé sa belle veste, son chapeau neuf. » Et puis ensuite, elle cite Moravagine, hein, que le grand roman de Blaise Sandrard. Il se penchait hors de la portière, tirait la langue au chef de gare en casquette rouge. Il faisait des pieds de nez aux aiguilleurs. Il voulait se déshabiller et se plonger tout nu dans le vivifiant courant d'air soulevé par le rapide. Frédéric débarque à Saint-Pétersbourg dans un climat dont il faut bien dire qu'il n'est pas idéal, parce que à l'époque, c'est la révolution de 1905, vous savez, climat insurrectionnel. Le jeune apprenti qui se passionne assez peu pour l'horlogerie, il faut bien le dire, va prendre ses marques dans cette ville de Saint-Pétersbourg. Il passe son temps à la bibliothèque impériale, il dévore les livres. On dit même qu'il écrit un roman, et au fil des rencontres, il va tomber sous le charme d'une jeune fille prénommée Hélène. Mais l'aventure russe va s'achever au bout de 3 ans. Il a 20 ans à ce moment-là. Il rentre en Suisse pour revoir sa mère mourante. Et puis, bientôt, il y a une autre nouvelle qui va venir le bouleverser. Hélène s'est mortellement brûlée en renversant une lampe à pétrole dans son lit. Frédéric, à ce moment-là, va s'inscrire en médecine. Il voudrait faire des études de médecine. Il étudie aussi la littérature. Et dans cette période qui est très sombre pour lui, il va trouver du réconfort auprès d'une étudiante polonaise qui s'appelle, et la voilà qui arrive dans notre histoire, Fela Poznanska. Bientôt, le couple s'installe à Paris. C'est le dénuement, c'est la période des vaches maigres. Hein. On a souvent le ventre vide, les éditeurs refusent les manuscrits. Et puis arrive ce fameux départ pour New York, où Frédéric Sauzère devient Blaise Sandrard. Peu après, il va s'embarquer à nouveau pour l'Europe et il écrira plus tard dans le Panama. Il écrira, je le cite, « Je reviens d'Amérique à bord du Volturno. Pour 35 francs de New York à Rotterdam, c'est le baptême de la ligne. Les machines continuent, s'appliquent de bonnes claques, boys platch les baquets d'eau et le voyage ne fait que commencer. » Je vous parlais tout à l'heure de la création de Haydn. Là, c'est la création du monde, le ballet dont la musique était signée Darius Milhaud sur un livret d'un certain Blaise Sandrard. Il faut imaginer que les décors à l'époque étaient de Fernand Léger en 1923 lors de la création au Théâtre des Champs-Élysées par les ballets suédois. C'est ici l'Orchestre National de Lille qui était sous la direction de Jean-Claude Casadesus.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Été 1912, Blaise Sandrard est de retour en France. On est dans le Paris de la Belle Époque. C'est la fin de la Belle Époque, évidemment. Ça va bientôt être la guerre. Mais on est encore dans les bals populaires, les célèbres cafés, les ateliers d'artistes, avec une scène culturelle en pleine effervescence. Blaise va fonder une revue avec 2 amis. Ça s'appelle Les Hommes Nouveaux. Et la situation de Blaise Sandrard n'en est pas moins précaire. Ça reste très difficile. Un jour de septembre, alors qu'il se promène place du Palais Royal, il aperçoit sur un étalage le livre « L'Hérésiarque » de Guillaume Apollinaire, bien sûr. Et il ne sait pas comment faire pour l'acquérir, il n'a pas les moyens, mais hop, il le glisse dans sa poche. Aïe, il se fait prendre et le voilà en cellule, au dépôt. Il décide à ce moment-là d'écrire à Apollinaire et Myriam Sandrard cite cette lettre. « Monsieur, l'Hérésiarque m'a séduit. J'ai voulu empocher le volume à l'étalage de la librairie Stock. Je me suis fait arrêter. Me voici en cellule au dépôt. Veuillez, je vous prie, faire quelque chose pour moi. » Apollinaire finira par rencontrer Sandrard, qui à l'époque est au milieu, vit au milieu des artistes. Il est très proche de Chagall, de Fernand Léger, vous l'aurez compris, mais aussi de Robert et Sonia Delaunay. Sandrard a toujours plein d'idées en tête, hein. Il a beaucoup de verve, il faut l'imaginer toujours avec son mégot à la bouche, là, qui se fait une place sur les banquettes du Dôme, du Café de Flore, ou donc du Dôme à Montparnasse, et de la Rotonde également à Montparnasse. En 1913, il va faire fusionner ses vers avec les couleurs de Sonia Delaunay, puisqu'ensemble, ils vont créer un livre, La prose du Transsibérien et La petite Jeanne de France. Le poème fait bien sûr écho aux jeunes années russes de Blaise. En ce temps-là, j'étais en mon adolescence. J'avais à peine 16 ans et je ne me souvenais déjà plus de mon enfance. J'étais à 16 000 lieues du lieu de ma naissance. J'étais à Moscou, dans la ville des 1003 clochers et des 7 gares, et je n'avais pas assez de 7 gares et des 1003 tours, car mon adolescence était si ardente et si folle que mon cœur, tour à tour, brûlait comme le temple d'Éphèse ou comme la place rouge de Moscou quand le soleil se couche. Est-ce que, pour autant, il l'a fait, ce voyage en Transsibérien ? Probablement pas, non, mais il y a un journaliste qui, un jour, sans souci, lui répond « Qu'est-ce que ça peut te faire, puisque je vous l'ai fait prendre à tous ?» C'est ça, en fait, Blaise Sandrard. C'est cette capacité qu'il a de faire rêver le monde entier. Il tisse sa légende. Année après année, il brouille constamment les pistes. Et avec Fela, qui est rentré maintenant de New York, les voilà qui s'éloignent de Paris et s'installent à Forges par Barbizon. Blaise devient papa d'un petit Odilon. Il travaille toujours donc sur son grand roman, hein, sur Moravagine, sur Panama ou Les aventures de mes sept oncles. Et ce qui est en train de se préparer, disons-le, c'est un véritable séisme. C'est la Première Guerre mondiale qui éclate. Autant dire que le temps n'est plus à l'écriture. Blaise va s'engager comme volontaire étranger dans l'armée française. Cette guerre est une douloureuse délivrance pour accoucher de la liberté. Cela me va comme un gant, écrit-il à un ami. Mais un jour de l'automne 1915, en Champagne, un terrible assaut va faire chavirer la vie du poète, puisque dans des combats d'une violence inouïe, comme il y en a eu tant et tant pendant cette grande guerre, une rafale de balles vient lui arracher littéralement un bras, et pour le poète privé de sa main droite, là il va falloir tout repenser. Claude Leroy analyse. Ce grand mutilé au bord du suicide découvre qu'il peut devenir l'autre, l'homme de la main gauche, une renaissance qui passe par la réappropriation de son double. Et l'auteur de résumé dans son livre « Dans l'atelier de Sandrard », le plus grand voyage du poète sera son voyage vers la gauche. Blaise Sandrard se relève avec une ténacité absolument digne de louange. Anne-Louise Sautreuil, qui a préparé cette émission, nous dit qu'il s'accroche, qu'il réapprend à tracer peu à peu des lettres, à taper à la machine. Puis il se remet au travail avec ardeur. Son appétit semble inextinguible, nous dit-elle. Il devient directeur littéraire aux éditions La Sirène, puis se lance corps et âme dans une nouvelle aventure, puisque ce poète fasciné par la modernité, par les chemins de fer, par la tour Eiffel, par les machines, etc., se poète maintenant veut faire du cinéma. Il devient l'assistant d'Abel Gance, puis passe derrière la caméra. C'est une désillusion néanmoins, puisque le film La Vénus Noire, le film qu'il tourne à Rome, est un véritable fiasco. C'est dans ces années de grands changements que va se terminer la relation avec Fela, pas longtemps après la naissance de leur troisième enfant. Le poète se sent de plus en plus proche d'une jeune actrice, Raymonde Duchâteau. Il devient sa compagne et malgré tout, rien n'empêche Blaise Sandrard de ressentir toujours cette espèce d'appel du large qui résume littéralement sa vie. Est-ce qu'il n'a pas écrit « Quand on aime, il faut partir ». Quand on aime, il faut partir. L'amour des commencements a aussi sa terre d'élection, nous dit Claude Leroy, que Sandrard nomme Utopialand. En 1924, il découvre le Brésil avec enchantement. Les hommes et la terre, la faune, la végétation, la démesure des champs de café, le métissage d'une population où s'invente l'homme nouveau, tout l'émerveille dans un pays qu'il adopte aussitôt comme sa seconde patrie spirituelle, après la France, bien sûr. Il fait 3 voyages au Brésil, même s'il suggère quelques allers-retours supplémentaires. Sandrard aura encore davantage voyagé dans sa tête que sur les routes, vous l'aurez compris, je ne vais pas vous le dire à chaque fois. Et à son retour en France, il va publier un roman plein d'aventures qui connaît le succès avec un titre tout simple et très beau, l'or. Seulement déjà le bourlingueur regarde vers d'autres contrées. Aldo Ciccolini interprète cette épatante gnossienne numéro 4 d'Éric Satie.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Dans les années 30, et oui, le temps passe, Blaise Cendrars va quitter sa bulle de poète pour un métier plus terre-à-terre puisqu'il devient journaliste. Il va travailler pour Paris Soir, dirigé à l'époque par Pierre Lazareff. Il a la cinquantaine maintenant et c'est un homme au visage buriné, avec toujours son éternel chapeau sur la tête. De temps en temps, il a un béret également. On le voit qui s'embarque pour une série de reportages aux États-Unis et en Amérique du Sud. Et au printemps 1935, pour ceux qui aiment l'histoire de la navigation, c'est une date importante, mai 35, hein, ça va être la première traversée, la traversée inaugurale du célèbre paquebot Normandie, prodige de modernité. Et bien sûr que Blaise Cendrars est à bord pour la traversée Le Havre-New York. Vous voyez au passage que je ne vous laisse jamais bien loin des États-Unis en cette matinée spéciale. Il écrit dans Paris Soir: « Ils m'avaient donné rendez-vous dans un bar, mais ils ne sont pas venus car cette nuit, tout l'équipage de la Normandie est consigné à bord. » J'aime autant cela, car au lieu d'écouter des histoires, je les verrai à l'œuvre dans les fonds, les soutiers, les huileurs, les graisseurs, les mécanos, tous les gars de la machine qui sont prêts à en mettre un bon coup et à faire équipe pour s'attribuer le fameux ruban bleu en battant avec leurs sabots le record de la traversée de l'Atlantique. Chaque soir, on le voit se rendre dans sa cabine pour écrire. Il rend compte de son voyage, hein. Il envoie des câbles au journal et bientôt, c'est la Seconde Guerre mondiale. Et Cendrars, encore une fois, veut s'engager. Seulement, il a vieilli maintenant, il lui manque un bras, vous l'aurez compris. Il devient correspondant de guerre auprès des troupes anglaises. Dès 1940, la débâcle de France le sidère et il va se réfugier à Aix-en-Provence. Là, on peut dire qu'il est en proie vraiment au désarroi. C'est Myriam Cendrars qui nous le raconte jour après jour. La vie de Blaise à Aix change d'orientation. Comment dire combien il souffre de l'asphyxie de la France, de la mort de la patrie qu'il s'est choisie? Comment dire les larmes retenues, le cœur oppressé? Il écrira: « Les conditions de l'armistice dans ce grand malheur général qui s'abattit sur les Français eurent une action immédiate sur mon sort particulier et, comme beaucoup d'autres, bouleversèrent ma vie. » Blaise, à ce moment-là, n'écrit plus. Le poète n'a plus envie de tremper sa plume dans la vie, comme il dit, et ce silence, qu'on pourrait appeler un deuil d'une certaine manière, ce deuil d'encre, va durer 3 ans. Il faut parfois pas grand-chose pour raviver la flamme. Vous allez voir, un jour de 1943, il reçoit la visite de son ami et écrivain Édouard Pesson, et c'est ce qui va chez lui susciter une soudaine et irrésistible envie de s'y remettre. On va renouer avec les mots. Et l'homme aux mille vies, ce poète, romancier, éditeur, reporter, vous l'aurez compris, ce journaliste au sens propre, va puiser son inspiration dans le passé, et il écrit ses livres parmi les plus célèbres. L'homme foudroyé, bien sûr, La main coupée, Bourlingué, Le lotissement du ciel, des textes qui forgent entre rêve et autobiographie le mythe qui reste, le mythe de ce poète bourlingueur, au verbe haut, à l'écriture fulgurante, l'homme qui est partout, toujours par monts et par vaux, et qui nous fait voyager par la force des mots. En 1950, il revient s'installer à Paris, rue Jean Dolan, on n'est pas loin de la prison de la Santé, hein, le long d'ailleurs de la prison de la Santé, On va le retrouver à la radio qu'il a découverte juste avant la guerre et qu'il l'enchante. C'est un média pour lui, la radio. Il se lance aussi dans un grand roman sur le monde du théâtre qui s'appelle « Emmène-moi au bout du monde ». Ce sera son dernier livre. Blaise Cendrars va rendre son souffle à 73 ans après une attaque cérébrale pendant l'hiver 1961. Il avait écrit cette phrase qui aurait pu lui servir d'épitaphe. « Rien n'est admissible, sauf la vie, à condition de la réinventer chaque jour, à condition, si je puis dire, d'être de braise et de cendre. » Et lui, il est tout de braise, c'est notre Christian Morin. Bonjour Christian.
Pas encore de cendre.
Hein. Non, bah heureusement.
Alors, vous évoquiez à l'instant là, un livre, bonjour Franck et bonjour à tous, vous évoquiez ce livre sur le théâtre, Emmène-moi, et curieusement, ça m'a rappelé un souvenir très agréable. À une époque de ma vie, j'ai fait pas mal de théâtre, et j'ai eu l'occasion de jouer aux Antilles. Et aux Antilles, oui. tous les gens qui sont dans les coulisses, les techniciens, les régisseurs, ont une habitude, au lieu de dire merde simplement avant que vous ne rentriez en scène, oui. Ils ont cette jolie phrase, ils vous disent avant de commencer votre pièce de théâtre ou votre spectacle, ils vous disent bon voyage. Je trouve
que ça, beau,
ça colle très très bien avec Blaise Cendrars ce
magnifique,
matin. Vous êtes une sorte
magnifique.
De Blaise Cendrars puisque vous faites aussi de la radio et vous
N'est-ce
écrivez
pas?
Comme lui. Il ne vous
je
reste
voyage
plus
beaucoup
qu'à
moins.
Qu'aller faire un tour à New York, oui, surtout en ce moment. Franck, on aura le plaisir de se retrouver demain matin. Bonne journée.